Quel âge avez-vous, Benjamin Tremblay?
22 ans, M. Saint-Pierre.
Et vous êtes encore à l'université ou c'est terminé?
J'ai terminé l'université, effectivement. En fait, 7 jours sur Terre, ça a commencé comme un projet qui était principalement académique, au sens où j'étudiais ici en sciences politiques, communication. Puis vous le devinerez, mais c'est pas le genre d'emploi dans lequel on rentre en cognant à la porte. Hein. Ça prend un portfolio, ça prend quelque chose pour montrer ce qu'on peut faire en quelque sorte. Donc, quand j'ai lancé 7 jours sur Terre, initialement, c'était vraiment juste une façon, si on veut, de produire une série de capsules qui elles, me permettraient éventuellement d'avoir, de rentrer dans le milieu des communications. Puis, ça a vraiment juste décollé, je vous dirais, après la 4e ou 5e, où là, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'attraction, puis c'est là qu'on a pris la décision, donc, de continuer puis d'aller de l'avant avec ça.
Oui. En sciences politiques, les études?
En communication, j'ai terminé, oui, effectivement.
Ah bon? Communication?
Oui.
OK. Ce goût-là, il origine d'où, finalement? Parce que quand on s'inscrit en communication, habituellement, premièrement, c'est assez large. En même temps, ça dépend où est-ce qu'on va. Si on s'inscrit à Jonquière, c'est pas la même chose que si on s'inscrit à Québec et ainsi de suite. Mais le chemin de Benjamin Tremblay était tracé de bonne heure ou ça s'est décidé sur le tard?
Écoutez, M. Saint-Pierre, je trouve ça spécial que vous mentionniez la question. Vous avez été ma première entrevue radio à vie. J'avais environ 12 ou 13 ans, puis c'était sur vos ondes, où on avait interviewé Régent Tremblay. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque.
Ben oui.
Il s'était pas présenté, finalement.
Ben oui.
Il n'avait pas répondu ce jour-là. Mais donc, oui, effectivement, ça fait quand même un petit bout, là. Vous vous en souviendrez. Je pense que j'avais 13 ans à l'époque. Je faisais de la télévision qui s'appelait Sois jeune et tais-toi ici à TVCK, qui est aujourd'hui ma TV. Et donc, ça remonte vraiment à très longtemps l'intérêt pour la chose publique, la politique. Maintenant, à partir du moment où j'ai décidé d'en faire une carrière, c'est vraiment quand je suis allé en sciences politiques, où là, j'ai compris, en quelque sorte, que la politique active, c'était pas ce qui m'intéressait, mais vraiment pas du tout. Je suis dans une classe avec 30 personnes en Sciences Po, puis écoute, tu regardes, tu dis, lui, il fait du pointage pour les conservateurs fédéraux, lui a fait la campagne avec Trudeau, lui est avec les libéraux provinciaux. Donc, tout le monde était là pour se faire vraiment une place dans le milieu, pour se mettre les pieds dans une case. Puis là, je me suis rendu compte que c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, je voulais la commenter, je voulais parler politique, puis je voulais pas être attaché à un parti.
Je voulais marchander
mon indépendance intellectuelle.
Honnêtement, l'affaire avec Régent Tremblay, j'aurais jamais fait le lien, là, mais c'est plaisant quand même de ramener ça. Séjour sur Terre, comment ça vient au monde? Ça vient au monde de la réaction, finalement, à quelques commentaires diffusés sur les médias sociaux, puis tranquillement, pas vite, ça va devenir un site Internet.
Tout à fait, exactement. Comment ça a commencé au début, comme je vous dis, c'était un projet qui se voulait vraiment plus académique. On l'avait lancé avec deux collègues à l'époque qui ont quitté l'aventure assez tôt. L'idée, c'était vraiment, on partait d'un constat qui était celui qu'il n'y a aucune actualité internationale au Québec. On n'en parle pratiquement jamais. Et c'est pour ça que ça s'appelle 7 jours sur Terre, d'ailleurs. C'est pas étranger à ça. Le but original, c'est vraiment de traiter de l'actualité internationale. Après 4 ou 5 émissions de radio, je vous disais, parce qu'au début, c'était de la radio, on est arrivé devant la réalisation qu'il y a très peu de gens qui écoutaient l'émission vraiment assidûment. Donc, on s'est mis à rentrer des caméras, vraiment juste pour prendre un petit segment de 4 à 5 minutes et puis pouvoir le diffuser sur les réseaux sociaux. Puis c'est là que les gens se sont mis le plus à être intéressés, honnêtement. On s'est mis à en entendre parler, les gens disaient « Écoute, j'aime ce que tu fais, c'est cool. » Et puis, tout ce qu'ils voyaient, c'était 5 minutes de vidéo. Donc, à ce moment-là, après la séparation avec l'équipe originale, moi, j'ai lancé le concept de capsule vidéo, qui était vraiment des capsules scriptées, qui voulaient en quelque sorte une synthèse d'un grand sujet d'actualité qu'on traitait normalement 1h30. Donc là, après 3 ou 4 capsules, qui, encore une fois, le succès, il était vraiment pas comme on a vu par la suite, est arrivé le fameux voyage en Inde de Justin Trudeau. qui m'ont vraiment rendu service. Ce fameux voyage où il s'est déguisé, il y a vraiment à voir avec toute la question sikh et tout ça, embarrassé de Canada. Et donc, j'avais traité du sujet et ça a été partagé, je pense, 10 000 fois sur le web en quelques jours. Et là, j'ai vraiment fait le saut, honnêtement, et bon, on sait jamais qu'est-ce qui est viral pour des circonstances et qu'est-ce qui l'est pour la qualité du contenu, si on veut. Donc, la fois d'après, je me suis dit, je vais réessayer, je vais rester dans l'actualité du Québec-Canada, voir si ça peut lever encore. La fois d'après, j'ai fait quelque chose sur Gaétan Barrette. Et là, ça a été partagé, je crois, 25 000 fois sur le web. Donc, c'est là que j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose là. Et donc, depuis ce moment-là, on s'est vraiment focussé sur l'actualité du Québec, sur les nouvelles qui nous touchent plus
à la maison. François Legault va nommer son conseil des ministres demain. Il paraît que vous avez fait vos prédictions.
Tout à fait, oui.
Oh, communication perdue.
Oui, non, pardon, oui, effectivement, j'ai fait mes prévisions.
Oui, alors ça donne quoi?
Ben, écoutez, je pense que ça va être un cabinet qui est extrêmement habile pour ce qui est de François Legault. La question reste encore à des gros départements, comme par exemple à la santé. Il y a encore un peu d'hésitation entre Daniel Mécan, Lionel Carman, à l'éducation. La CAQ a quand même fait beaucoup, beaucoup de promesses majeures, a fait du millage là-dessus dans les derniers jours. Et pendant la campagne, notamment, on se souvient des fameuses maternelles 4 ans de François Legault qui l'a répété à maintes reprises à qui voulait l'entendre. Ça, c'est un gros contrat quand même. Et là, le seul qu'on a évident, si on veut, à la CAQ, c'est Jean-François Roberge, qui est l'ancien porte-parole de l'éducation. Il y a un peu un trou dans l'alignement là, à ce niveau-là pour ce qui est de la CAQ. Au niveau de la santé, comme j'ai dit, là, on est quand même bien grillé avec Daniel Mécan et avec M. Lionel Carman. Ouais. La question, ça va être de savoir comment on va l'organiser. Parce que là, évidemment, on ne peut pas donner des limousines et des jobs de ministre à tout le monde. Moi, ce que je crois, c'est qu'il va probablement y avoir un fractionnement au niveau du ministère de la Santé, qu'on va en faire un ministère des services sociaux et un ministère de la Santé.
Ah, ouais.
Distribuer ça un petit peu.
Ce serait nouveau, ça?
Ce serait nouveau, effectivement. On l'a déjà vu dans d'autres ministères. En santé, ce serait effectivement une première. Comme je vous dis, François Legault a quand même un gros mandat en santé. Il y en a beaucoup à faire et il y a une équipe qui le justifierait. Ça pourrait lancer un bon message aussi politiquement, disons-le, de dire on a beaucoup de travail, on a beaucoup à bûcher. On met deux personnes sur la patinoire dans ce dossier-là.
Ouais.
Et François Legault a la liberté de le faire, étant donné qu'il a dit qu'il y avait un petit cabinet de 20 personnes. S'il veut commencer à diviser comme ça, il n'y aura pas de problème.
Mm-hmm. Bernard Drainville a avancé que Denis Tardy pourrait peut-être avoir un siège de ministre. Marie-Ève Proulx peut-être aussi. Ouais. Est-ce que, dans le fond, quand on écoutait Bernard Drainville parler de ça, ça avait l'air être quand même un calcul politique assez simple à faire, là. Si tu veux que les gens du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie se sentent représentés, ça s'arrête à Rivière-du-Loup, Témiscouata. Donc, faut que tu y penses quelque part entre Québec puis la région de Rivière-du-Loup, Témiscouata. Vous en pensez quoi?
Vous avez exactement raison, M. Saint-Pierre. Vous venez de mettre le doigt sur le bobo. C'est tout à fait une question de représentation régionale. Il y a beaucoup de prérogatives quand même qui vont être sur la table de François Legault en faisant son conseil des ministres. L'une d'entre elles, effectivement, c'est la représentation régionale. Au-delà de dire on veut les meilleures personnes, mais ça, à un moment donné, si t'en as 22 ministres sur 22 qui sont de l'île de Montréal, il y a réellement un enjeu de légitimité de représentation. Il y a des gens qui se sentiront pas attachés à ce gouvernement-là. Ensuite, ce qu'on voit maintenant avec Marie-Ève Proulx et avec M. Tardy, à mon sens, c'est un peu la continuité de ce qu'on a vu avec Jean Damour, qui était le général, si on veut, de l'Est du Québec, du Parti libéral, un vrai château fort qui était là pendant des années. Et je sens que c'est peut-être un peu ce qu'on tente de faire avec la CAQ. Peut-être qu'on va essayer de s'installer comme ça un comté solide dans lequel on pourrait revenir d'année en année. Et ça passe un peu par un ministre. En établissant un ministre, c'est quelqu'un qui a une visibilité nationale, c'est quelqu'un qui va pouvoir avoir beaucoup de notoriété, qui va en faire beaucoup pour la région, évidemment. Ouais. Ce sont des gens qui ont accès à des portefeuilles.
Mais en même temps, si ce raisonnement-là tient, il aurait dû tenir pour Jean Damour, et il n'a pas tenu.
C'est un très bon point. Toutefois, Jean Damour, je mentionnerai qu'il a été emporté par la même vague qui a remporté tellement de grands ténors de partis politiques. Hein. Si on regarde Jean-François Lisée, ensuite même Jean-Martin Hossan n'a pas passé, Pierre Moreau a été tassé à Châteauguay. Il y a vraiment des gens qui ont été déplacés de leur circonscription, au-delà que pour des considérations de compétences, vraiment pour des considérations politiques et partisanes. Je pense que Jean Damour en fait partie. La CAQ n'est pas un choix naturel, si on veut, là, dans le Bas-Saint-Laurent. Typiquement, on allait beaucoup plus du côté du Parti québécois ou même du Parti libéral. Donc, c'est là que j'arrive à être un peu surpris. Toutefois, il faut comprendre comme je dis, que ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large, là, qui est la vague de la CAQ qui vient de balayer le Québec.
En terminant, puis c'est une question très large, vous y répondrez comme vous voulez. vous vous intéressez particulièrement à la planète, vous l'avez mentionné, c'est pas pour rien que ça s'appelle 7 jours sur Terre. Quand on regarde comment on fait la politique, toute la place que les États-Unis ont pris, Donald Trump particulièrement dans l'actualité. Comment on fait de la politique maintenant depuis l'élection de Donald Trump, les changements climatiques et tout ce qui accompagne les positions qui se prennent présentement à l'échelle mondiale. Pour un gars de 22 ans, là, c'est quoi le recul par rapport à ça?
Écoutez, au niveau de la situation internationale, je pense qu'on vit en ce moment vraiment une époque phénoménale. C'est un temps incroyable pour être vivant. C'est ce que nos grands-parents ont vu avec les deux guerres mondiales, avec l'arrivée de la TV, avec l'arrivée de la radio, de l'Internet. Nous, on est en train de le vivre avec la perturbation absolument gigantesque qu'est Donald Trump comme président des États-Unis. On est en train de vivre ça par la perturbation que ça apporte à l'ordre politique mondial. Moi, ce que j'en lis, c'est qu'on est en train, comme je vous dis, de vivre un espèce de recalibrement de l'ordre mondial, où là, la Chine est en train de prendre sa place, où l'Europe est en train de se séparer carrément de l'influence américaine. S'il y avait une table à laquelle les États-Unis étaient les patrons, aujourd'hui, le siège est vide, tu sais. Pour ce qui est de l'accord de Paris, les États-Unis se sont retirés. C'est aujourd'hui la Chine, où il fallait leur tordre le bras pour joindre l'entente. Aujourd'hui, ce sont eux qui tiennent l'entente à bout de bras. Donc, il y a vraiment cette absence de leadership mondial-là qui vient d'arriver. Et ce que ça place, au fond, c'est qu'on se retrouve avec des leaders mondiaux comme Justin Trudeau, comme Angela Merkel, comme Xi Jinping, comme quiconque à travers le monde, qui sont laissés à eux-mêmes et qui, bon, doivent dealer avec un vide diplomatique, si on veut. Et nous, au Québec, comment ça se représente? Eh bien, c'est qu'on voit effectivement l'espèce de défense qu'on a contre l'ALENA et contre les négociations, ouais, entre autres, de gestion de l'offre. On se défend contre un monde qui est en train d'essayer de nous avaler, hein?
Oui. Benjamin Tremblay, c'est une question qui était bien large pour aussi peu de temps, oui, pour y répondre. Merci d'avoir commenté, puis on va continuer de vous écouter puis de vous lire à l'occasion.
Plaisir. Je vous remercie.
Bye-bye. Benjamin Tremblay, chroniqueur politique.